Chronique Livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, deux titres lauréats aujourd'hui au prix des prix du gouverneur général 2024. Un pour les grandes personnes et un autre pour la jeunesse, les ados.
Oui. En fait, le 13 décembre, on a finalement donné les titres gagnants parmi une foule de prix littéraires qui sont sortis en novembre. Je dis 13 décembre, c'est 13 novembre.
Mais c'est ce que je me disais, là, parce qu'on est le 10. Oui. Dans trois jours, ça va être le 13.
Juste avant le Salon du livre, puis juste avant Noël, il y a une quantité de prix, on vient qu'on ne sait plus qui gagne quoi tellement il y en a. Alors, j'ai été chercher les titres lauréats dans la catégorie roman chez les jeunes et chez les adultes. Et le premier dont je vous parle s'intitule « Les crues » et c'est écrit par Steve Poutré aux éditions Alto. C'est un livre qui est paru en janvier, je crois, 2024, un livre de 261 pages. D'un auteur qui est à son premier roman. C'est un garçon qui a grandi sur une ferme laitière, d'où le titre, Les Crues. Et puis, il a fait carrière en design graphique. Puis, il habite à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Donc, il est en Montérégie, pas très loin de là où il a grandi, à Saint-Ignace-de-Stanbridge, tout petit village. Un jeune auteur qui est né en 79 et puis qui a connu...
Jeune, 45 ans.
Ben oui,
puis là... Il n'y a pas 22.
Moi, je trouve ça quand même...
Oui, tout est relatif.
Oui, puis jeune auteur, dans le sens qu'il a une courte carrière.
Oui, oui, c'est son premier roman.
Et puis, bon, ben, il a connu la vie à la ferme, ce que c'est, les exigences, le train, faire la traite des vaches à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir, les foins, puis la vie est dure quand même. Puis, on n'est pas sans savoir que, présentement, depuis quelques années, la vie à la ferme entraîne beaucoup de dépression, de détresse chez les hommes. Puis, les hommes ne parlent pas de ce sujet-là, c'est tabou, ils travaillent à outrance, et puis, bon, ben, ça fait que... C'est pas Jojo. Donc, il faut pas s'imaginer que c'est un petit roman bucolique dans les champs de blé, là, c'est pas ça du tout. Mmh. Alors, c'est construit d'une façon double, je dirais. On voit un homme, un jeune adolescent, qui est dans un lit. On sait pas s'il est à l'hôpital parce qu'il est blessé, mais ça va pas. Puis, à travers les petits chapitres qui sont des fragments, bon, ben, arrivent les souvenirs de l'enfance. Qui sont quand même assez chronologiques, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et c'est pas toujours drôle. Ce héros-là qui est dans le lit au début, ben il y a des insomnies, des hallucinations, on sait pas si c'est dans un hospice ou un asile, ou on sait pas. Puis peu à peu, ça nous est révélé par petites doses. Ça nous tient donc en haleine jusqu'à la fin où on comprend qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Puis que je dirais pas parce que c'est le plaisir de le découvrir. Alors, il s'est sans doute inspiré de choses vécues, de fragments de son enfance et son adolescence en milieu rural, près de la frontière américaine, dans un mini-village où tout le monde se connaît. Et puis, bon, ben quand ça va mal, parfois, oui, on s'entraide, mais aussi, quand ça va mal, tout le monde en parle aussi. Alors, l'écriture est très poétique et offre de très belles images. Il travaille beaucoup sur les sensations, les sens. Je parle de sa mère alors qu'il est tout petit. Il dit « Elle dépose ma main sur son ventre pour que je sente bouger mon frère. » Il y a une très belle relation avec la maman, mais il va nous dire plus tard qu'elle n'est pas très heureuse. Chez la grand-mère, il va retrouver ce même réconfort. « Chez ma grand-mère, je n'ai pas besoin de cogner avant d'entrer. » Sa maison est une extension de la mienne. L'expression sur son visage lorsque je m'assois tout bonnement dans sa cuisine vaut 1000 caresses. Alors, la grand-maman, elle habite dans une maison voisine. Ils sont comme conjointement sur la terre, on pourrait dire ça. Et là, il dit, lorsque ma grand-mère est occupée, je m'amuse dans les chambres à l'étage. Des pièces minuscules qui ont déjà abrité jusqu'à 16 corps sales et collants. Impensable qu'autant d'individus puissent entrer dans ces espaces. Le lieu ne sert plus qu'à se rappeler la promiscuité surréaliste d'une génération. Je n'arrive pas à capter les voix tapies dans ces cachettes vidées de leurs secrets. On me somme de ne pas m'y attarder, la table est mise. Donc, ces pièces vides sont finalement des pièces où son père à lui a grandi, ou sa mère, je crois que c'est son père, ouais, c'est ça. Et puis, donc, ça fait que il n'y a plus des grosses familles comme autrefois pour travailler à la ferme. S'il était 16, puis lui, ils sont trois enfants, ça change la dynamique. Comme il dit, c'est une autre génération. Et tous ces fragments-là sont narrés par le héros qui va ajouter de la noirceur à ça. On se sent dans un roman de la Terre, mais aujourd'hui, c'est tout près, là, les années 80, 90, et il raconte que sa mère, qui a grandi sur la Terre, aurait peut-être souhaité autre chose. Il dit, ayant elle aussi grandi sur une Terre, dans une famille pauvre et tordue à souhait, elle s'était bien promis de quitter la campagne. Mais entre deux voyages de foin, une bague se glisse à son doigt et la redépose dans un décor très familier. Et il dit plus loin, les draps étendus sur la corde à linge qui absorbe l'odeur du purin étendu dans les champs entretiennent son regret de ne pas être tombée amoureuse d'un dentiste. Alors oui, la mère, elle souffre dans ce milieu-là, elle n'est pas très heureuse.
Et l'odeur du purin, c'est quelque chose.
C'est quelque chose, oui. Alors, Steve Poutré, il idéalise pas du tout la situation. Il arrivait beaucoup d'accidents dans les fermes. Les enfants étaient laissés libres à aller jouer dans le silo, dans le foin, sur les tracteurs. Puis, bon, il est arrivé beaucoup d'incidents. C'est quelque chose qui est exigeant de vivre à la ferme. On est débordé, donc on ne peut pas toujours encadrer les enfants comme on le fait ici en ville.
C'est du 7 jours sur 7.
Oui, 7 jours sur 7, pas de vacances. Puis, il revisite ce terroir-là. Moi, je me suis beaucoup vue dans les romans du terroir, de la vie en région, avec des images qui sont parfois très belles, parfois gothiques. Il va aussi aborder les sujets de la maladie mentale, de la détresse psychologique, du milieu agricole, sujet tabou qu'on ne veut pas aborder, mais de plus en plus, on va en parler, par exemple. Son cousin qui prend l'autobus avec lui tous les matins pour aller à l'école, un jour, un groupe d'amis, ils ont dit « t'es pas game de faire ci, t'es pas game de faire ça ». Puis oui, il a été assez fou pour se tirer une balle dans la bouche.
Aïe.
Et il va dire que sa mère va le conduire à l'école parce qu'il ne veut pas faire face à ce siège vide où son cousin lui gardait toujours une place dans l'autobus. Il avait fait un pacte avec ses amis. Ça fait beaucoup réfléchir. C'est jamais moralisateur, c'est jamais dénonciateur de quoi que ce soit. Ce sont des faits qui ont sans doute marqué l'auteur. D'autres ont sans doute exagéré. On sent qu'on est dans une autofiction, mais qui est enrobée de noir, de gothique. Oui, presque d'horreur.
Mais ce n'est pas un roman documentaire. Là. Je pense à Rondelet de Justin Laramie, qui était du théâtre documentaire. Ici, on ne fait pas de parallèle ici.
Non, non. Et puis, c'est sur l'enfance beaucoup. Alors, quand on dit que l'enfance nous marque, je pense que l'auteur a voulu aller chercher ces souvenirs-là et a bâti, pour tout lier ces petits souvenirs-là, il a bâti l'image du personnage habité dans l'hôpital, dont on apprend peu à peu ce qui lui est arrivé. Donc, ça nous met en contact avec la progression du personnage. C'est un livre que j'ai bien aimé puis que je propose de lire par petites doses, un petit chapitre de temps en temps, parce qu'il y en a vraiment que c'est difficile. Il y a des morts puis il y a des drames là-dedans.
Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi il a remporté le prix du gouverneur général?
J'ai l'impression que c'est à l'originalité du propos.
L'écriture aussi?
L'écriture, le style, oui, c'est une nouvelle écriture, c'est très personnel. Et d'en parler avec cette tonalité sombre, sans jamais tomber dans le drame exagéré.
Ouais.
Mais la réalité, c'est ça. Alors, ça fait plaisir. Et moi, je le suggère à toutes les personnes qui ont déjà vécu sur une ferme, qui ont étudié en agriculture.
Mais une bonne lecture aussi pour les urbains, je dirais.
Oui, qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe dans ce milieu-là. Ils ne sont peut-être pas conscients de tout ça.
Alors, L'Écru par Steve Poutré aux éditions Alto, un livre qu'Anne-Marie Aubin nous conseille. Et puis, on passe maintenant à Une bulle en dehors du temps. C'est publié aux éditions Le Méac Jeunesse.
Oui, c'est écrit par Stéphanie Meunier, qui est née en 71 à Montréal et qui a étudié en création littéraire. Puis, elle a publié quand même plusieurs livres à son actif, dont Une carte postale de l'océan chez Le Méac et puis Ce n'est pas une façon de dire adieu chez Boréal. C'est une personne qui a une maîtrise de l'écriture, ça se voit. Elle a écrit un très beau roman jeunesse pour les ados qui parle de la difficile période de l'adolescence. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous fait parler les deux personnages. Là, ce sont les narrateurs. Il y a une fille qui s'appelle Océane, qui a 13 ans. Et puis, il y a Rock, qui a peut-être un an de plus, parce que lui, il n'a pas le même parcours scolaire, mais les deux souffrent. Et comme ils sont narrateurs à tour de rôle du chapitre qu'on lit, on comprend la vision d'une fille puis la vision d'un gars qui ont chacun des gros problèmes de maladie mentale. Elle se trouve laide, elle a 13 ans. Et puis, le roman commence, elle est chez son amie, puis la mère de son amie lui dit « t'es pas si laide que ça, gaffe, monumentale. »
Encourageant de se faire dire ça.
Oui, parce que son amie Naïla, elle a l'air d'être parfaite. Elle nous la décrit comme une femme parfaite, jolie, tout ça. Puis il y a deux gars qui compétitionnent pour être le chum de cette fille-là. Puis elle a dit, ça ne pourra jamais m'arriver. Moi, laide comme je suis. Mm. Puis là, ben, c'est là que la mère dit, c'est pas si laide que ça, chose qu'il ne faut pas dire. Alors, elle est tannée de se faire dire qu'il faut qu'elle attende. Là, elle grandit comme une échalote. Puis elle se fait dire à l'école qu'elle est une échalote, puis elle n'aime pas ça. Elle dit, me faire dire de ne pas m'en faire, que tout va bien aller, ça m'aide pas. Je dirais même que c'est insultant. C'est comme si on me disait de me taire, que ce que je ressens, c'est insignifiant, que ça ne compte pas, que ça n'existe pas. Je suis condamnée à être différente, gigantesque, toute ma vie. Je suis dans une classe de soutien émotif parce que, à ce qui paraît, je souffre d'anxiété, en transition pour aller en classe régulière, mais toujours dans le même groupe pour les trois matières de base. Donc, elle est dans une place spéciale parce qu'elle fait de l'anxiété. Puis juste de penser qu'elle peut croiser quelqu'un dans le couloir, elle souffre parce qu'elle va recevoir des insultes. Et dans cette classe-là se trouve Rock, qui lui est un petit peu un impulsif, qui est le contraire d'elle. Lui, il fait peur, il se bat avec ses poings, alors il fait peur à tout le monde, donc personne ne se moque de lui. Et puis lui, ben, il ne contrôle pas son impulsivité, fait qu'il a été dans un centre jeunesse. Ça fait 6 mois qu'il est dans un centre jeunesse. Il y a un autobus qui l'amène juste à l'école. Il doit retourner. Il ne peut pas sortir parce qu'il a fait une overdose avec du Xanax et de l'alcool.
Ils ont quel âge, Océane et Rock?
Elle a 13 ans. Puis lui, je dirais qu'il a 14 peut-être. Okay. Donc, au deuxième chapitre, on commence avec Rock qui va justement dire qu'il est assis à côté d'elle à l'école. Puis qu'à l'école, elle a la tête baissée, des épaules courbées, comme si elle voulait être plus petite, comme si elle voulait ramper sous terre. Mais parfois, je la vois monter le chemin de la montagne entre nos deux maisons et on dirait que ce n'est pas la même personne. Elle semble heureuse. Alors, c'est qu'ils vivent à Saint-Jérôme, puis il y a un lac où elle va pour finalement s'évader, penser à rien. Elle va nager, elle va écouter le ruisseau. Puis pendant que je suis là, ben, il n'y a personne qui vient ici, je suis dans un lieu sécuritaire. Puis lui, ben, qui a un trouble impulsif, il dit... Selon la travailleuse sociale, je suis juste impulsif. L'information se rend à mon poing ou à ma bouche avant de se rendre à mon cerveau. Hmm. Alors parfois, je frappe ou je fais du mal avec des mots. Je dois suivre des ateliers de gestion de la colère et de l'impulsivité au centre. Ça ne sert à rien. Je le sais que je suis impulsif. C'est mon cerveau qui est construit comme ça. D'après moi, ça prendrait plus un chirurgien ou une lobotomie qu'un atelier pour changer ça. Alors, le hasard va faire qu'un jour, il prend un petit sentier, puis il voit qu'elle est là, elle, Océane, au bord du lac, elle s'est baignée, puis elle se repose. Et puis là, ben, ils vont commencer à échanger. Et lui va raconter ce qu'il a vécu au centre jeunesse, c'est quoi sa vie de famille, c'est pas ses parents le problème, c'est vraiment lui. Ses parents sont super, sont comme tout le monde, ils veulent le bien de leur fils. Et ils vont se donner rendez-vous à 15 heures tous les jours. À peu près au même endroit.
Au bord de l'eau.
Voilà. Et donc, dans cette nature, là, il va lui dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu as à penser que tu es laide? Moi, je trouve que tu ressembles à un chevreuil. Puis là, elle ne sait pas trop. C'est un compliment, mais c'est vrai qu'un chevreuil, c'est gracieux. Hein? C'est tout petit.
On a mis entendre ça que tu n'es pas si laide que ça.
Ben c'est mieux, oui, effectivement. Alors là, elle a dit, ah, c'est drôle comment il me voit. Puis là, ben Il va lui dire qu'il a besoin de consommer, de fumer des joints, de prendre de l'alcool. Puis il va lui en offrir. Puis elle dit, non, moi, je vais combler tous mes problèmes ici. Ou alors, quand je lis. Elle dit, moi, quand je me sens pas bien, quand je veux rien sentir, je lis. C'est pour ça que j'aime lire. Quand je lis, je suis pas là. Alors, lui qui a de la misère à lire puis à comprendre, il est tout à fait dans un autre monde. Et puis, il a beaucoup de mal à comprendre ça. Puis elle va dire que même les livres, parfois, font tellement bien. Elle dit, il y a des livres qui me font du bien et j'aimerais ça aussi réparer les gens avec des mots. Peut-être que je pourrais réparer Rock parce qu'elle pense qu'elle pourrait peut-être se mettre à écrire. Alors, c'est un petit village là, où elle vit, puis elle dit qu'à cause de ça, tout le monde sait qui elle est, puis qu'elle souffre d'anxiété, puis tout le monde la regarde. Elle dit, je me prive d'aller au dépanneur, je me prive de sortir, de peur de croiser quelqu'un qui va à l'école avec moi puis qui va me dire des insultes. Alors, Stéphanie Meunier sait bien raconter le trouble intérieur qui habite les adolescents, particulièrement ceux qui souffrent. Et il se raconte, ce garçon Rock, qui n'est pas méchant du tout, il raconte ce qui se passe en lui, puis la peur qu'il a, c'est de pas assez vivre intensément le présent, là, d'être trop dans le présent, d'être coincé. Elle, c'est le contraire, à voir le futur, qu'est-ce qui va m'arriver, elle est toujours en train d'être dans l'anxiété, puis ben voyons donc, on s'en fout des gens autour de nous, on fait ce qu'on a à faire, mais elle, elle est incapable. Bref, leur conversation va les aider jusqu'à un certain point. Je dirais pas que ça finit bien, ça finit moyen, mettons, mais c'est la réalité. Et c'est bien que ça soit comme
c'est
ça.
C'est pas un happy end.
Oui, voilà, puis je trouve que c'est important que les adolescents sachent les dangers qu'il y a autour de tout ça et la façon de se soigner, l'importance de se soigner. Et comme c'est assuré par un garçon et une fille, ça va plaire autant aux garçons qu'aux filles. C'est bref, c'est percutant, c'est bien écrit. Il y a des belles images et des beaux messages. Je crois que c'est ce qui a fait que le jury a craqué pour ce titre-là.
Quand vous dites qu'il y a des belles images, ce sont des belles images créées par les phrases et non par des illustrations.
Non, c'est ça, je voulais dire des métaphores.
Non, mais c'est bien, oui, OK. Alors, ça s'appelle « Une bulle en dehors du temps » et c'est écrit par Stéphanie Meunier. Stéphanie, elle écrit son prénom S-T-E, accent aigu, F-A-N-I. Et puis, elle est très, très jeune, elle est née en 1971.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Anne-Marie.
Elle a signé pas mal de livres, par exemple. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ça va être notre dernière avant de partir pour les vacances.
En effet.
Bonne lecture.
Au revoir.